Tout d'abord, dans 1 Samuel, chapitre 13, 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, où Dieu utilise Samuel pour communiquer à Saül un message très douloureux. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dans notre chapitre 16, toujours 1 Samuel, chapitre 16, mettons en évidence dans le verset premier cette expression, en quelque sorte sur les lèvres de Dieu, « Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi, ou j'ai vu un roi pour moi. » J'ai vu un roi pour moi. Reprenons les versets 6 et suivants. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et puis dans le prophète Ésaïe, en introduction à ce qu'on a appelé le cinquième évangile, celui de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, les trois premiers versets, Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et puis enfin, dans le Nouveau Testament est dans le livre des Actes, au chapitre 13. Actes, chapitre 13. Un extrait d'une prédication de Paul, s'appuyant sur le message de l'Ancienne Alliance. Acte 13, verset 21, « Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saul, ou Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous nous penchons donc sur un aspect important, essentiel de notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Cette question de nos choix. Et nous avons parlé hier matin du piège des apparences, dans lequel avons-nous souligné même un homme de Dieu aussi expérimenté que l'était Samuel est tombé, impressionné par l'apparence, la stature, la prestance, la présentation d'Éliab l'aîné, très sensible à ce qu'il voyait. Et ceci nous a conduit à considérer le problème de l'attraction du visuel, la place du beau et du brillant dans la société, le problème de nos regards superficiels qui engendrent des jugements superficiel, le problème de notre échelle d'évaluation qui souvent souffre. Et nous avons souligné qu'une des caractéristiques de l'homme spirituel est qu'il regarde en profondeur, au-delà des mots et des attitudes, et cela s'apprend. Cela s'apprend. Dieu nous forme et nous transforme et nous déforme pour que notre regard change. J'aimerais prolonger ce que nous avons partagé sans toutefois m'y appesantir, mais souligner quand même rapidement les conséquences d'un regard superficiel, puisque Dieu nous dit que cela peut coûter très cher dans nos grandes décisions. Vous connaissez l'image tellement concrète que Jésus utilise dans les dernières paroles de ce qu'on appelle communément le serment sur la montagne, qu'il vaudrait mieux appeler la constitution du royaume des cieux, pour reprendre un langage très actuel, puisqu'on parle beaucoup de constitution que l'on révise, que l'on conteste, à laquelle on se réfère continuellement. Et en réalité, Matthieu 5 à 7, c'est un texte de constitution, mais ce n'est pas le texte de constitution de 1958 de la République française, c'est le texte de constitution immuable du royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter volontairement et résolument de se placer sous l'autorité, sous ce maître étalon immuable, qu'est cette charte, en quelque sorte, que Dieu a donnée par Jésus-Christ à l'aube de son ministère, non seulement au peuple d'Israël, rassemblé autour de lui, mais au-delà, à tous ceux qu'il appellerait à intégrer le royaume. Et il est intéressant de voir que cette constitution se termine par des éléments qui touchent tout à fait à notre sujet. Tout d'abord, dans le chapitre 7 et dans les versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Là encore, choix superficiel lié à un regard superficiel. Chemin large, spacieux, porte qui invite fortement à l'entrée et qui pourtant mène à la perdition. Et d'ailleurs, cet élément de la Constitution débouche sur toutes sortes d'aspects pratiques, au-delà même, n'est-ce pas, pour celui qui entre, celui qui pénètre, celui qui emprunte la porte étroite, celui qui emprunte le chemin resserré. Le combat n'est pas fini, il ne fait que commencer. Et il va y avoir des pièges. Et premier piège, versets 15 et suivants, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Voyez, encore une fois, problème d'apparence. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors ça concerne, je l'ai dit il y a un instant, celui et celle qui ont pénétré par la porte étroite, qui ne se sont pas contentés d'un regard superficiel. Ils sont entrés sur le chemin étroit. Et ils vont découvrir, peu à peu, que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des difficultés. L'apôtre Paul le dira dans Acte 20, n'est-ce pas ? Il évoquera ces faux docteurs, ces loups, qui s'introduiront, qui surgiront même du milieu du peuple de Dieu, et qui feront des dégâts. Et puis, vous avez les versets 21 et suivants, je ne veux pas entrer trop entrer dans le détail, mais certains pourraient dire, bon, eh bien, on va regarder aux fruits, ce qui sous-entend que si quelqu'un a un ministère extraordinaire, qu'il fait des miracles, qu'il fait un travail prophétique assez particulier, il chasse les démons, etc. Bon, eh bien, ça va, on peut le classer d'emblée du bon côté. Alors Jésus, là aussi, dans cette charte du royaume, prévient en disant, oui, écoutez, attention, ne vous trompez pas sur les fruits. Et il précise, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça pourrait apparaître comme un fruit, avoir un langage très spirituel, affirmer la seigneurie de Jésus-Christ. Et vous savez que simplement, dans les Écritures, la répétition du mot « Seigneur » n'est pas simplement une petite figure de style, mais elle sous-entend un superlatif, c'est-à-dire qu'on insiste sur la seigneurie. Si cela était répété trois fois, ce serait alors le summum, surtout davantage dans la langue hébraïque, mais là, simplement, c'est suffisant. Seigneur, Seigneur, ça veut tout dire. En vérité, ça veut tout dire, n'est-ce pas ? Alors, Jésus dit, non, attention, ce ne sont pas ça les fruits. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, on rejoint ce que l'apôtre Paul dira au sujet de David. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés, la plénitude de ma volonté. Puis encore un peu plus loin, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ce qui sous-entend, je ne suis jamais entré dans une véritable relation vivante et d'intimité avec vous. C'est là la portée du mot connaître. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, vous voyez donc que l'exercice de don apparemment prestigieux, brillant, est totalement insuffisant pour placer quelqu'un, je dirais, dans le sein même de Dieu, dans son intimité. Et là, il y aurait beaucoup à dire dans notre temps où l'emphase est mise sur le miracle, sur l'exorcisme, sur les dons de puissance, sur la prophétie. J'écoutais à un moment donné de la journée d'hier Radio Certitude qui aimé 24 heures sur 24 dans la région, ici, à partir de Grenoble, et j'entendais donc un message donné dans un institut biblique en Suisse, et l'orateur faisait continuellement allusion aux prophéties données par les prophètes les plus renommés dans le monde actuel, qui disent ceci, qui sont d'accord d'aller dans cette direction. Et je pensais à ce texte. Quels sont nos critères de choix? Cet homme de Dieu qui est John Stott a écrit dans un de ses livres, ceci, je vous le livre, alors que les chiens, entre guillemets, et les porcs sont relativement faciles à reconnaître du fait de leur attirance pour la saleté, les loups, eux, se glissent dans le troupeau sous l'apparence d'une brebis. Les imprudents les confondent avec le reste du troupeau et les accueillent. Souvent, leur vraie personnalité n'apparaît que lorsque le mal est déjà fait. Un faux docteur ne se fait pas de publicité comme diseur de mensonges. Au contraire, il se targue d'enseigner la vérité. D'autre part, il dissimule ses sombres intentions sous un vêtement de christianisme et il sait que les chrétiens forment un peuple crédule. Et hélas, je dis oui, avec regret, à une telle affirmation. Il compte ne pas être démasqué dans son habit d'innocence. Parfois, il y ajoute même le langage de l'orthodoxie historique en lui donnant un sens différent, c'est-à-dire qu'il utilise les mots classiques du vocabulaire biblique reconnu, y compris dans le milieu évangélique, comme foi, évangélisation, mission, etc., des mots qui appartiennent à notre vocabulaire et qui nous font dire dans notre crédulité, dans notre naïveté, que parce qu'il les utilise, il est évangélique. Mais le problème, c'est que ces mots n'ont pas le même contenu, n'ont pas la même définition. Demandez à un partisan de ce qu'on appelle la théologie de la libération des opprimés, je pense à l'Amérique du Sud où cette théologie de la libération a joué un énorme rôle et a été portée par le Conseil œcuménique qui allait jusqu'à donner des sommes incroyables d'argent pour soutenir la lutte armée de certains peuples, disant qu'une véritable évangélisation, une véritable conception de la mission consiste à mettre entre les mains des peuples opprimés des armes pour qu'ils tuent et qu'ils se libèrent. Eh bien, les théologiens de la libération ont utilisé un langage d'orthodoxie en apparence. J'ai moi-même assisté à des conférences écoutant l'un de ces théologiens, et j'avais avec moi des néophytes dans la foi chrétienne. Je m'occupais justement de ces militaires dans le cadre de l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale. Nous avions été invités à ce qu'on appelle un synode à Berlin. Et j'avais donc emmené avec moi des militaires du contingent qui venaient tout juste de se tourner vers Jésus-Christ. Et nous entendions un compte-rendu d'une de ces grandes rencontres du Conseil œcuménique qui avait eu lieu à l'époque à Uppsala en Suède. Et ce théologien utilisait un langage tout à fait évangélique. Et lorsque je me suis retrouvé, après la conférence, avec ces militaires, tout jeunes convertis, ils étaient emballés, parce qu'ils reconnaissaient dans le vocabulaire de ce théologien le vocabulaire que j'utilisais moi, et par lequel, au contact des Écritures, ils venaient de trouver la foi. Et ils disaient, mais c'est fantastique, ça c'est un évangélique. Et j'ai dû leur dire, mais mes amis, détrompez-vous. Et nous avons donc passé du temps ensemble, pendant lequel j'ai repris un certain nombre de mots clés de la conférence de ce théologien de la libération, en disant, voyez, nous, en lisant la Bible, et nous l'avons vu dans la Bible, nous avons compris que tel mot, le mot évangélisation, voilà ce qu'il veut dire, le mot foi, voilà ce qu'il veut dire, le mot mission, voilà ce qu'il veut dire. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce que ces mots veulent dire dans la pensée de ce théologien. Ah, mes amis, vous auriez dû voir leur visage changer au fur et à mesure que je décryptais, en quelque sorte, ce langage du théologien apparemment orthodoxe. Je vous donne cet exemple parce que le problème est très fréquent aujourd'hui. Et il faut savoir que parfois derrière un langage très orthodoxe du protestantisme officiel dont je suis issu, et dans lequel j'ai commencé ma formation pour être pasteur, aussi bien que dans le langage qui, par certains côtés, a beaucoup évolué au sein du catholicisme officiel, les évangéliques se trompent complètement, parce qu'ils n'ont pas compris que les mots ne recouvrent pas les mêmes définitions. Et que très souvent, lorsque l'homme utilise le langage cache bien des arrière-pensées. Nous allons parler de l'importance de la vérité, cette pierre de touche, dans la mentalité de Dieu au sujet de David. Mais je suis douloureusement souffrant de la naïveté, de la crédulité du peuple de Dieu véritablement évangélique, quelles que soient les dénominations que cela peut recouvrir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous nous laissons leurrer, nous nous laissons berner par des apparences. N'avalons pas tout cru un discours parce qu'il a une connotation évangélique. Ceci est parfaitement insuffisant. Ne créditons pas quelqu'un d'une spiritualité venant de Dieu parce qu'il fait de l'exorcisme, parce qu'il chasse donc des démons, parce qu'il prophétise, parce qu'il fait des miracles. La Bible dit que dans la fin des temps, et surtout dans l'approche du règne de l'Antichrist, les miracles venant directement de la puissance des ténèbres vont se multiplier. Et sans aller même jusqu'à ces manifestations séductrices, il est bien entendu que il est si facile de manipuler l'homme, et Satan est aussi maître dans ce domaine, par le biais de toutes les influences liées à des discours habiles qui jouent sur ce qu'on appelle le psychosomatique. Par exemple, que de miracles ne sont pas de vrais miracles, dans ce sens que lorsque vous allez voir certains médecins et qu'ils ont le sentiment que votre maladie est beaucoup plus d'origine psychique que directement liée à un dysfonctionnement de votre organisme, simplement, n'est-ce pas, ils vont vous donner un médicament sans vous dire que c'est ce qu'on appelle un placebo. C'est-à-dire que c'est un médicament dans lequel il n'y a aucun produit actif. Mais parce qu'il a une certaine couleur, le fait simplement de l'avaler, d'aller à l'encontre de ce qui se passe en vous qui vous dérange, va produire un changement. Il existe une quantité de placebo, si vous voulez, dans le domaine religieux et spirituel. Et nous attribuons parfois à Dieu ce qui n'a rien à faire directement, si vous voulez, avec la plénitude de la volonté de Dieu en faveur de l'homme. Vous comprenez pourquoi je tenais à prolonger quelque peu cette réflexion et à en venir finalement à ce qui est, soulignons-le ce matin, la conclusion de cette constitution du royaume de Dieu. Vous remarquez comment Jésus a tenu à conclure. Vous savez, là aussi, dans la structure de la pensée, une introduction, une conclusion, beaucoup d'importance. Il y a là une note dominante dans la conclusion. Comme si le Seigneur Jésus avait voulu emballer tout le paquet de ces différents articles de la Constitution dans un emballage le plus précieux qui soit, le plus important qui soit, ce sont les versets 24 et suivants. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelle conclusion ! Que celle qui nous ramène à la nécessité fondamentale, absolue, vitale, nous avons déjà utilisé ces termes tout à l'heure, de toujours, de ne jamais cesser, de considérer, et j'utilise le terme considérer dans ce sens le plus fort, c'est-à-dire de scruter ardemment, en profondeur, avec continuité et de manière systématique, l'ensemble de la parole de Dieu, non pas pour devenir d'énormes cerveaux, une grande langue, avec un petit cœur et des petits pieds, mais pour devenir des hommes et des femmes équilibrés, qui mettent en pratique un message qu'ils auront perçu dans la totalité, dans la continuité des Écritures. Et si j'ai dit avec force tout à l'heure que le peuple de Dieu aujourd'hui était terriblement crédule et naïf, sa crédulité, sa naïveté est liée au fait que nous sommes en train de dériver généralement partout dans nos églises par rapport aux Écritures. Cela fait 15 ans que je voyage dans pas mal de pays, que je sillonne notre beau pays de France, que je visite des églises évangéliques de divers bords. Et ce qui me frappe le plus, c'est de voir ce désancrage, ce désarrimage des croyants de nos églises par rapport à la parole de Dieu. De plus en plus, des croyants se réunissent, venant même au culte, aux réunions de prière, aux études de la Bible, biblique, sans leur Bible, par exemple. Sans leur Bible. On peut leur raconter n'importe quoi. Au point que depuis un certain temps, j'ai adopté une certaine stratégie. Lorsque je me rends compte que, visitant une église, les membres de cette église n'utilisent pas leur Bible, n'ont même pas leur Bible avec eux, ne peuvent même pas suivre, vérifier ce que j'affirme, eh bien, tout simplement, je fais des lectures en cours d'études dans lesquelles j'introduis des erreurs doctrinales. Je lis le texte en modifiant sensément le contenu du texte. Et quand j'ai terminé la lecture du texte, je me tourne vers l'auditoire et je dis « Vous êtes d'accord ?» Eh bien, tenez-vous bien, c'est arrivé tout récemment lors d'une série de conférences dans une église évangélique relativement importante, en Belgique, où, devant la passivité incroyable des participants, il y avait là 200 personnes à peu près, je m'en étais rendu compte déjà dans les soirées précédentes, je leur avais demandé de venir avec leur Bible, je leur avais montré que nous allions utiliser la Bible continuellement, mais l'habitude était difficile à prendre. Et donc, devant cet auditoire hyper passif du dimanche matin, j'ai introduit une erreur doctrinale dans une lecture. Puis j'ai dit à ses amis, vous êtes d'accord? Ils n'ont pas bougé. Je dis, mais vous êtes d'accord? Et comme je voyais qu'il y avait là une inertie assez particulière, j'ai relu le texte. Et bien entendu, j'ai répété l'erreur doctrinale. Et je leur dis, écoutez, vous avez peur de moi? Est-ce que vous voulez me dire si vous êtes d'accord ou pas? Et finalement, j'ai vu un certain nombre de personnes dans l'auditoire opiner du chef, comme on dit, c'est-à-dire. Et je leur ai à peu près dit ceci ensuite, mais vous savez, vous êtes mûrs pour les faux docteurs. Je pourrais vous raconter n'importe quoi. Je viens d'introduire une erreur doctrinale et nous allons reprendre le texte. Et vous allez bien regarder, pour ceux et celles d'entre vous qui ont leur Bible avec eux, vous allez bien regarder le texte. Et vous allez me dire si je vous ai lu la vérité. N'importe quel faux docteur peut vous raconter n'importe quoi. J'en parlais il y a quelques mois dans la préparation d'une convention pour cet automne avec Frank Horton, l'ancien directeur de l'Institut biblique Emmaüs, et nous partageons un certain nombre d'expériences de ce genre, et Frank Horton de me dire, tu sais, moi j'en suis là aussi. Et lui a trouvé aussi sa mesure pour essayer de faire réagir. Il dit, eh bien moi, j'ai trouvé un truc, quand j'ai ce type de problème, et effectivement aussi de plus en plus fréquent, je propose des lectures bibliques en introduction, comme nous le faisons chaque matin, mais simplement, je dis, nous allons lire dans l'épître de Paul A, et j'invente un nom d'épître qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Et à ma grande stupéfaction, les premières fois, maintenant je ne suis plus stupéfait du tout, mais je vois les gens qui cherchent pendant un certain temps et qui s'entraident, etc., et qui vont finalement même dans la table des matières pour chercher un certain temps, jusqu'à ce que je leur dise, non, excusez-moi, ce n'est pas dans ce livre-là, il n'est pas dans la Bible. Mes amis, vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ça passe aussi par là. Alors je ne vais pas poursuivre dans ce domaine, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'années, je crois 6 ou 7 ans, nous avons vécu ici tout un camp de famille qui était centré sur cette question. Des problèmes, des déviations dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, les toutes premières études, nous avons passé beaucoup de temps à nous pencher sur ce que l'apôtre Paul appelait les discours séduisants. Alors, si vous éprouvez le besoin de faire une étude plus approfondie de ce problème des discours séduisants et des philosophies trompeuses dans l'Église de Jésus-Christ, vous savez, vous le verrez d'ici la fin de notre séjour, une série de cassettes sur ce sujet est à votre disposition. Mais je tenais, dans le cadre d'un Samuel 16, parce que cela appartient à la formation de l'homme spirituel, à souligner que là aussi, l'homme spirituel ne regarde pas simplement à ce qui frappe les yeux. Souvenez-nous de ce texte d'Ésaïe 53 que nous lisions tout à l'heure, et l'un d'entre vous hier, dans le court moment de prière qui succédait à l'étude, a prié dans ce sens. Quel drame dans l'histoire du peuple d'Israël. Après 4 siècles de silence prophétique, que celui de son regard superficiel, qui ne s'est pas attaché, à part un peuple très humble, d'hommes et de femmes de Dieu qui connaissaient les Écritures. Je suis très frappé de lire dans Matthieu, dans Luc en particulier, que le peuple des humbles qui ont discerné le Messie,
était un peuple qui était pétri du message de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, qui aimait Dieu et qui n'avait pas un regard superficiel. Un Siméon, une Anne, une Élisabeth, une Marie, un Joseph et quelques autres qui sont des échantillons de cet humble peuple n'avaient pas un regard superficiel. Ils entrevoyaient, eux, qu'avant le Messie glorieux, viendrait le Messie souffrant. Mais pour une grande partie d'Israël, hélas, c'était l'apparence qui comptait. Il fallait celui qui allait bouter l'occupant dehors, celui qui remplirait les poches, etc., etc. Et bien sûr, les rabbins étaient allés dans ce sens-là. Et voyez où cela aboutit, heureusement, dans la pleine volonté de Dieu, dans ce don d'amour volontaire de Jésus-Christ. Mais quand même, ce texte d'Ésaïe 53, on en connaît bien les versets suivants, hein. Souvent, ce sont les versets 4 et suivants qui nous intéressent. Nous escamotons souvent le début. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, parce qu'ils ont un regard superficiel, parce que leurs critères de jugement sont complètement faussés, passent à côté du Christ qui leur est présenté, parce qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font de notre Dieu, cette idée complètement faussée aussi par des siècles de déformation de l'image de Dieu dans notre pays. Voilà, je tenais à souligner ceci. Nous aurions pu prendre tant et tant d'autres textes parce que cette histoire a commencé dans le jardin d'Éden avec le fruit de l'arbre, hein, qui était beau, agréable à la vue, dit le texte de Genèse 3:6. Agréable à la vue, mais empoisonné. Nous aurions pu prendre Jacques chapitre 2 dans le Nouveau Testament, pour prendre un autre texte du Nouveau Testament. Tout ce problème de l'apparence, hein, lorsque un riche entre dans l'église locale et qu'un pauvre entre dans l'église locale. Et là aussi nous sommes coupables, que de diversité de comportements, parfois tellement douloureux. Je me souviens une fois dans l'église dans laquelle j'étais responsable en Bretagne, il y a pas mal d'années maintenant, du vide qui s'était créé assez rapidement sur un banc autour d'un clochard qui sentait mauvais. C'est vrai que c'était pas évident. Mais que de difficultés n'avons-nous pas dans ce domaine? L'apparence, lisons peut-être rapidement Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, cette épître éminemment pratique. Jacques 2, verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Et le terme du texte original, le mot grec, est un mot composé qui signifie littéralement « accueillir le visage ». Accueillir le visage de l'autre. Et il est fréquemment utilisé dans les Écritures. Jacques 2, verset 2. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, une discrimination, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, etc., etc.? Vous voyez, un problème très fréquent. D'ailleurs, il n'est pas toujours dans ce sens, hein. Il est fréquemment dans ce sens. Mais il arrive aussi, dans certaines cultures, que ce soit l'inverse qui soit vrai, et que, disons, dans certains climats politiques aussi, qui parfois, hélas, polluent nos mentalités, nous ayons un mauvais comportement vis-à-vis du riche. Hein, il faut, là encore, une fois de plus, ne pas se focaliser uniquement sur ce texte parce que nous risquerions de devenir injustes vis-à-vis des riches. Voyez ? Et Dieu a aussi, dans son peuple, des hommes et des femmes éminemment riches et qui mettent à la disposition de son royaume les richesses dont ils sont les gestionnaires, les gérants, dont ils considèrent Dieu comme propriétaire. Mais il est évident que, hélas, dans l'histoire humaine, le schéma, l'équation est souvent en prédominance, si vous voulez, aller dans ce sens. Et nous devons là aussi faire attention dans nos vies d'église. J'ai sous les yeux cette petite anecdote d'un homme qui fréquentait une église régulièrement depuis plusieurs mois, mais que l'on ignorait toujours. Ses vêtements étaient vieux et usés, les gens avaient tendance à l'éviter, et comme ces gens ne savaient rien de lui, personne ne lui parlait jamais. Alors un dimanche, lorsqu'il prit place dans l'église, il conserva son chapeau volontairement. Et lorsque le pasteur se présenta devant l'église et qu'il considéra l'auditoire qui s'y trouvait, il remarqua immédiatement l'homme qui portait le chapeau. Faisant signe à un diacre, le pasteur lui demanda d'aller dire à l'homme qu'il avait oublié de retirer son chapeau. Et lorsque le diacre parla à l'homme, il répondit avec un large sourire en disant « Ben, je pensais bien que ça fonctionnerait. Cela fait 6 mois que je fréquente cette église et vous êtes la première personne qui vient me parler. » Hein ? Il faut parfois utiliser des méthodes bien étranges pour se faire remarquer simplement à cause de son apparence qui sort de ce qui est communément admis dans le monde clos de certaines églises locales. Mais cela nous touche tous. Cela nous touche tous. Disons simplement que Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il va jusqu'au cœur. C'est ce que Dieu a dit à Samuel, et nous reprenons là ce texte d'1 Samuel 16. Et je dirais que cela, pardon de le dire ainsi, cela rend l'amour de Dieu pour l'homme d'autant plus extraordinaire. Que Dieu puisse m'aimer alors qu'il me connaît dans le sens le plus absolu du terme. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ? Que de fois, précisément, notre amour fluctue et tarit lorsque nous découvrons qu'au-delà ou sous le masque qui rendait l'autre tellement attrayant, se cachent des choses qui nous déçoivent. Vous savez que c'est le cas dans notre éducation de nos enfants. Tant que nos enfants font les bêtises de l'innocence, que les petits bébés roses font les colères bleues, mais parce qu'ils sont tout petits, ça va. Ce sont des moments un peu difficiles à vivre, mais enfin. Mais là où notre amour pour nos enfants commence sérieusement à poser problème, c'est la première fois que nous les découvrons calculateurs dans leur attitude envers nous. Tant qu'ils plongent le doigt dans la confiture en nous regardant droit dans les yeux, ça va. Mais le jour où nous découvrons qu'ils ont plongé le doigt dans la confiture derrière notre dos, il y a un petit quelque chose qui casse à quelque part dans le tissu affectif de nos relations avec eux. Et c'est là que Dieu commence à nous apprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel pour nos enfants. Et c'est toute une école de formation dont nous avons aussi besoin dans l'éducation de nos enfants. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette inconditionnalité de l'amour de Dieu qui me connaît. Qui me connaît. Alors nous aurions pu, là aussi, prendre quantité de textes. Genèse 6,5, Dieu voit les pensées du cœur de l'homme. De Chroniques 6,30, Psaume 44,22, je les cite au passage. Dieu connaît les secrets des cœurs. Psaume 139, versets 1 à 4, c'est la Marseillaise de ce thème hein, dans l'Ancien Testament, où le psalmiste est coincé partout, qu'il fasse ce qu'il veuille, qu'il aille où il veuille, n'est-ce pas? Il est toujours rattrapé, Dieu le suit partout. L'œil était dans la tombe.
Et puis dans le Nouveau Testament, nous l'avons vu hier matin dans notre lecture de Jean 1, 45, 49 et 2, 23 à 25, ce regard de Jésus qui n'était pas superficiel. Et puis, Matthieu 22, nous avons eu l'occasion de lire un texte dans Matthieu 22 tout à l'heure, mais au verset 16, lorsque les pharisiens envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens, avec leurs ennemis héréditaires, hein. Ça c'est l'alliance politique comme il en existe tout le temps sous les cieux, hein. Pharisiens et Hérodiens qui se bouffaient le nez, pardon de le dire ainsi, et qui s'allie pour dire « Maître, nous savons que tu es vrai. » Nous anticipons sur la suite de notre étude. « Nous savons que tu es vrai. » Et je suis persuadé qu'ils étaient vrais en disant cela. Le problème était ailleurs. Mais il est évident qu'au contact de la beauté, de la vérité pure, qui émanait de Jésus-Christ, ces pharisiens calculateurs étaient frappés par cette beauté. Et ils ne pouvaient que le reconnaître. Nous savons que tu es vrai. Et ils se condamnaient hein, par là même. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Il faut dire qu'ils avaient déjà pris des claques, hein. Tous les patrons, tous les chefs, hein, toute la crème, sans t'inquiéter de personne. C'était vrai. C'est peut-être la seule fois où ils ont dit publiquement de telles vérités avec autant de force pour les condamner, n'est-ce pas? Et au jour du jugement dernier, c'est le message qui leur sera renvoyé pour ceux qui ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ. Car tu ne regardes pas à l'apparence au visage des hommes. Bon, et puis ils vont s'appuyer sur cette qualité maîtresse de l'essence même de la nature, du caractère de Dieu en Jésus-Christ, pour essayer de le coincer. Puisque tu es cela, tu ne peux pas te défiler devant le piège que nous te tendons. Bon. Comprenez, alors il y a toute la suite, je ne vais pas la commenter maintenant. Mais regardez quelle confession. Quelle confession sur la personne de Jésus-Christ. Il ne regarde pas à l'apparence. Romains 2, 11, encore un texte d'une importance absolument capitale. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Là encore, toujours le même terme. Dieu n'accueille pas simplement le visage. Et cela arrive au verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. D'ailleurs, le mot « action » n'existe pas dans le texte original, mais c'est un mot qui a été ensuite francisé et qui nous aide à comprendre, c'est le mot « crypte ». Dieu jugera les cryptes des hommes. Tout ce qui est en dessous, hein. Allez visiter la crypte, vous y verrez peut-être un ossuaire avec tous les ossements qu'on a récupérés au fil du temps, de tous ces saints dont on n'a pas pu déterminer qui ils étaient, que sais-je encore, hein, ces endroits
assez particuliers, intéressants parfois à visiter, mais enfin qui vous font parfois un peu froid dans le dos, les cryptes. Dieu jugera les cryptes des hommes. Et plus loin encore, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Les cryptes, là aussi c'est le même terme, les cryptes ténébreuses, et qui manifestera, donc qui mettra en évidence, manifester c'est faire avec les mains, qui mettra en évidence, ce sera quelque chose de palpable, personne ne pourra contredire un seul instant, parce que ce sera tellement évident, manifestera les desseins des cœurs, tous les raisonnements, tout ce qui est caché là-dedans, et que nous n'exprimons pas forcément. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà pour le regard de Dieu. Mais nous aurions pu prendre tant et tant et tant d'autres textes qui évoquent le regard de Dieu. Alors le regard de Dieu maintenant, venons-y, n'est-ce pas, à ce regard de Dieu dans le cœur de David. 1 Samuel 16, verset 1er, j'ai vu un roi pour moi, j'ai vu ce regard pénétrant, ce scanner de Dieu. Ce rayon laser de Dieu. Et prenez les systèmes les plus sophistiqués d'aujourd'hui, tous ces moyens qui permettent d'aller très loin pour discerner s'il n'y a pas un problème ici ou là, dans nos cellules, qui vont jusque dans l'infiniment petit, qui ne sont encore rien à côté du laser de Dieu lui-même, n'est-ce pas ? Du scanner de Dieu. Eh bien, ce scanner de Dieu, ce laser de Dieu, avait vu un roi pour lui dans la personne d'un jeune berger qui s'occupait de son troupeau. L'Éternel regarde au cœur. Nous l'avons lu, aussi 1 Samuel 13, 14. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a frappé le regard de Dieu chez David? Quelle disposition a-t-il vue dans son cœur? Faut-il dire d'emblée que Dieu a vu le péché? Peut-être faut-il commencer par là. Bien entendu que Dieu a vu le péché. Dieu connaissait la vie tout entière de David, avant même qu'il ait été conçu. Dieu était donc parfaitement lucide. Dieu n'avait pas un regard partial. Ce regard pénétrant connaissait tout du passé, du présent et du futur de David. Il faut le dire. Parce que nous pourrions être tentés de mal comprendre ce que nous allons dire ensuite et de laisser croire que Dieu a choisi David parce que David était déjà dans son enfance et sa jeunesse un surdoué, un personnage tout à fait extraordinaire qui n'était digne que d'une école spécialisée pour certains types de chromosomes particulièrement avancés, n'est-ce pas ? Nous pourrions penser cela. Alors disons-le d'emblée. Parce que Dieu l'a dit au peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était tenté de se croire le chouchou de Dieu, ce choix tout à fait particulier, je vous ai choisi pour être à moi, comme un peuple totalement distingué de l'ensemble des nations,
Vous êtes là pour m'appartenir, vous allez être là, ma lumière parmi les nations, etc. Alors vous avez des têtes qui s'enflaient démesurément, des cœurs qui se gonflaient. Alors Dieu a précisé par Moïse, notamment dans le Deutéronome, et vous savez, ne pensez pas que vous y ayez quelque mérite. Vous êtes le moindre des peuples. Qu'est-ce que vous comptez même sur la balance au regard de l'ensemble des nations? Je vous ai choisi parce que vous êtes les plus petits. Et puis mieux encore, je vous ai choisi parce que je vous aime, c'est tout. Je vous aime. Mais souvenez-vous aussi parce que vous êtes les plus petits. Et quand on voit la place qu'occupe Israël et la place qui est en train de se restreindre à nouveau, ça se réduit peau de chagrin à nouveau. Et pourtant Dieu a toujours les regards sur cette situation. Et nous sommes attentifs, à l'écoute. Nous regardons, nous entendons, nous ne supputons pas, nous ne spéculons pas, nous n'essayons pas d'inventer quoi que ce soit au plan prophétique, parce que nous savons qu'il faut toujours regarder les choses avec une certaine distance pour ne pas dire n'importe quoi. Nous sommes prudents. Mais néanmoins, nous voyons que dans ces lignes générales, la prophétie s'accomplit. Disons-le. Et nous devons regarder Israël, parce que c'est là un figuier qui est une indication pour le peuple de Dieu tout entier, n'est-ce pas ? Alors, nous l'avons dit, Dieu a vu d'abord chez David, bien entendu, le péché. Mais il a vu aussi d'autres dimensions, qui, bien entendu, étaient contaminé par le péché. N'est-ce pas ? Disons-le, il n'est pas nécessaire d'être disciple de Jésus-Christ pour aimer. Il faut quand même faire attention. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes tellement absolus que nous ne considérons même plus les actes de bonté de nos contemporains s'ils sont en dehors de Christ. Ce qui est bouleversant, c'est que alors que nous arrivons au niveau mondial à l'apogée dans une corruption généralisée où l'homme est en train de cumuler les choses les plus horribles et avec les moyens les plus sophistiqués, ce qui en fait des choses encore plus horribles. Aujourd'hui, nous soyons encore capables de voir quelque chose de la beauté de Dieu dans cette humanité corrompue. Martin Luther King, dans un de ses sermons extraordinaires, le disait de cette manière: lorsque l'homme se traîne dans la boue, tout rappelle qu'il est fait pour les étoiles. Et il a raison. Oh, je ne suis pas d'accord avec Martin Luther King sur tout, parce que sa théologie posait pas mal de problèmes et n'était pas évangélique. Mais il avait vu là la vérité. Ce qui est extraordinaire, c'est de scruter, de voir des aspects de la beauté de Dieu dans une humanité corrompue. Les élans du cœur de l'homme capable d'aimer. J'écoutais ce matin aux informations les quelques mots de témoignage Richard Virenc, ce champion qui a gagné le Grand Prix de la montagne et qui s'est situé aux premières places du classement général du Tour de France, et qui expliquait ce qui avait motivé son désir de mettre la totalité de ses primes, 250 000 francs, plus son vélo et son maillot, à la disposition de Médecins sans frontières. Et bien sûr, nous sommes tentés d'y voir des calculs, une pub, etc. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des aspects de tout cela, mais il y a aussi quelque chose de la beauté de Dieu dans notre monde corrompu d'aujourd'hui. Mais le problème, et c'est là que je voulais en venir, c'est que nous pouvons avoir certaines dispositions, mais elles sont simplement entachées, empoisonnées. Nous ne pouvons pas vivre dans l'Église de Jésus-Christ simplement de cet amour. Là, marqué au coin par le péché, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que très souvent, dans l'Église de Jésus-Christ, on ne fait que reprendre l'amour que nous avons manifesté avant d'être convertis à Jésus-Christ, et puis on le sublime quelque peu, sans réaliser que cet amour doit passer par la croix. N'est-ce pas? Il faut que les laminoirs de Dieu, il faut qu'il y ait un usinage, une purification en profondeur, une action du Saint-Esprit dans nos vies. Une sorte d'échange. Seigneur, je viens à la croix déposer mon amour pollué pour être saisi et rempli de ton amour à toi. Il y a combien de conflits dans nos églises qui sont liés au fait que nous vivons avec notre mentalité d'amour ancienne et qui font que nous n'accepterons pas la sévérité de l'amour, la sainteté de l'amour, la discipline de l'amour. Mais non, mais ça ne peut pas être l'amour. Parce que c'est encore notre vieille conception qui domine. Vous comprenez? Alors, je tenais à être très, je dirais, plein de précautions en introduisant cette partie sur les dispositions intérieures de David pour que nous n'ayons pas l'impression que David avait en lui, par nature, des bons points extraordinaires. Il y avait des dispositions de cœur chez David qui plaisaient au cœur de Dieu mais qui étaient elles-mêmes contaminées et que sa formation d'homme spirituel durant cette 10 à 14 années allait modifier. Alors vous dites, mais accouche, viens au cœur du sujet. Et j'aimerais, et nous allons terminer avec cela puisque nous avons commencé à vers moins le quart, j'aimerais là ajouter cette phrase de Tozer. Nous avons cité Tozer, vous vous souvenez, pour comparer l'homme spirituel et l'homme charnel dans certains domaines particuliers. Et Tozer dira ceci: la spiritualité authentique est révélée par certains désirs dominants. Ce sont des aspirations toujours présentes, profondément enracinées et suffisamment puissantes pour motiver et contrôler la vie. Et l'histoire de David, ce que Dieu voyait avant même que David soit né, nous le voyons parce que nous avons les Écritures entre les mains. C'est là la distinction. Et une analyse fine, comme nous allons le faire, de la vie de David, nous révèle qu'il y avait dans le cœur de David quelque chose qui répondait au cœur de Dieu. Et lorsque, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à découvrir cela, je me suis rendu compte que cette dimension qui fait battre le cœur de Dieu est une des dimensions fondamentales des Écritures, une des pierres de touche des Écritures. Je veux parler en particulier d'un profond désir d'intégrité. Un profond désir de vérité, un profond désir de droiture. David, nous allons le voir, va se révéler comme un homme, nous l'avons déjà dit, passionné, entier, désirant de tout son cœur aimer Dieu, lui donner une place prépondérante, prioritaire, de primauté dans sa vie. Et c'est quelque chose qui est très frappant. Vous le verrez, Dieu a concentré son message au sujet de David sur ces aspects-là, qui sont absolument fondamentaux. David, nous le verrons, a été tout particulièrement un homme profondément vrai. Surtout 1000 ans avant Jésus-Christ, dans son contexte, authentique, sans détour, aimant la vérité, la lumière, acceptant, nous le verrons, d'être repris par la lumière. Une des grandes qualités de David, c'est qu'il acceptait d'être repris. Il acceptait d'avoir tort. Et ça, c'est fondamental si nous voulons avancer. Je disais à quelqu'un récemment, il y a quelques jours à peine, que ce qui me frappe dans l'analyse du développement des œuvres évangéliques, et qui est valable pour les églises de la même manière, c'est que les œuvres évangéliques qui se développent, qui progressent, qui font un travail remarquable sur le temps, ce sont des œuvres qui ont une qualité fondamentale, c'est qu'elles aiment la vérité de Dieu. C'est-à-dire que continuellement, elles acceptent d'être reprises dans leur mesure par la vérité de Dieu. Elles acceptent d'être corrigées. Si c'est nécessaire, elles font même des sondages pour demander à ceux qui ont affaire à elles les forces et les faiblesses. Et puis elles corrigent humblement et elles vont de l'avant. Et dès qu'une œuvre cesse ceci, elle va vers sa fin. Elle devient comme une coquille d'escargot qui va peu à peu voir son contenu se scléroser. La coquille sera toujours là, elle sera peut-être magnifique, mais ce ne sera un jour plus qu'une coquille. Et je pense en vous disant cela un certain nombre d'œuvres. Et ce qui est valable au niveau des œuvres est valable au niveau des individus. Tant que j'accepterai de me remettre en question, non pas sur les choses fondamentales qui doivent être réglées une fois pour toutes, hein. Nous ne sommes pas des gens toujours en recherche. Hein. Vous savez qu'il y a des slogans qui fleurissent actuellement, « Je suis en recherche ». Il y a des gens qui se plaisent en recherche, parce qu'ils savent que si jamais ils trouvaient, ça changerait trop leur vie. Alors ils continuent volontairement à être en recherche. Alors nous devons être des hommes et des femmes qui ont trouvé. Je l'ai trouvé. Mais qui ensuite continuent à être des chercheurs pour approfondir leur connaissance de Dieu, leur connaissance de leur propre nature, leur connaissance des besoins de ce monde, leur connaissance du royaume, de ce qui les attend, etc. N'est-ce pas ? Qualité fondamentale. Alors, c'est ce que nous allons voir demain matin, et je vous cite simplement aussi, toujours dans la même veine, cette pensée de Tozer, écoutez ceci, « Un désir de l'homme spirituel est de mourir dans la vérité plutôt que de vivre dans l'erreur. Il n'achètera pas quelques jours de vie supplémentaire sur terre au prix d'un compromis ou d'une faillite. Il veut par-dessus tout avoir une vie droite. » Ah, mes amis, nous allons devoir prendre un bâton à partir de demain matin, rassurez-vous, pas pour nous taper dessus, mais pour remuer un petit peu la fourmilière. Et pour voir ce que cela voulait dire, tout d'abord, voir l'importance de cet aspect aux yeux de Dieu, droiture, intégrité, etc. Alors nous allons voir dans la mentalité de Dieu l'importance de cet aspect. Et puis nous allons ensuite promener un micro comme si nous étions des reporters. Et nous allons interroger un certain nombre de personnes qui ont vécu dans l'entourage de David. Et nous allons simplement poser à ces personnes une question. Toi, qu'est-ce que tu penses de David ? Des membres de sa famille, des collègues de travail, des gens sur lesquels il avait autorité, ses ministres, etc. Et nous allons voir comment ces personnes réagissent. Et vous verrez combien c'est intéressant et tout ce que nous pouvons en retirer. Et à partir de cette matière-là, nous allons nous pencher partiellement sur cette pédagogie de Dieu pour que c'est ce qu'il voyait, mais gangréné, sali, par le péché contaminé, passe par ces laminoirs de Dieu pour qu'il puisse entrer dans la royauté en étant au clair, bien au clair, sur ces grands principes de vie, sur ces qualités de caractère. Voilà notre programme pour les jours à venir. Faut-il dire quand même que, après ce que j'ai dit, l'histoire de David dans son adultère avec Bathsheba prend un relief particulièrement saisissant. Et c'est pour cela qu'un texte de l'Ancien Testament dira en témoignage à la vie de David que David eut un cœur entier droit vis-à-vis de l'Éternel, qu'il plut à l'Éternel en tout, curieusement, malgré toutes les autres bêtises qu'il a faites, y compris le dénombrement. Et pourtant il est simplement dit « sauf en ce qui concerne l'affaire d'Uri le Héthien ». Pourquoi ? Parce que ça a été ce domaine, ce moment de la vie de David, où dans une dimension dans laquelle il excellait, il était un exemple pour nous, eh bien il a craqué. Et il a craqué pendant une année de sa vie à peu près. On pense que c'est une année à peu près, hein, et on le verra ensemble. Une année où cette qualité fondamentale que Dieu avait développée, purifiée, passée au laminoir du Saint-Esprit, de la croix, eh bien tout cela a craqué, ce qui veut dire beaucoup de choses pour nous, hein, concernant ces dimensions peut-être dans lesquelles, par la grâce de Dieu, nous avons pu avancer, et pourtant nous ne sommes pas à l'abri. Sinon, dans l'intimité du Seigneur, nous pouvons chuter aussi. Là même où nous avons été un exemple pour ceux qui nous entourent. Voilà, je m'arrête là.